Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement sur Europe 1 et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité sera l'acteur Thierry Lhermitte. On parle de la comédie chorale Homme au bord de la crise de nerfs. Ça sort demain. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant la célébrité. Et Marc-Antoine Lebray sera avec nous pour clore l'émission. Bonjour Héloïse Goy.
Bonjour Philippe.
Bonjour Lili Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Et bonjour dans ce studio à Bruno Donnet.
Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous scrutez ici les rouages fins de la mécanique médiatique. Hier, vous avez donc suivi la grande agitation qui a entouré Kylian Mbappé. Mais 24 heures après, vous avez encore un peu de mal à comprendre l'effervescence que vous avez observée.
Oui, et si je devais résumer la folle journée à laquelle j'ai assisté hier, Philippe, j'emploierais une formule, breaking news, il ne s'est rien passé. Toute la journée, il n'a été question que de l'avant-centre du Paris Saint-Germain. Et pourtant, un BFM TV nous l'a très clairement annoncé d'entrée de jeu. L'information autour du joueur de foot n'avait strictement rien de spectaculaire.
Il y a beaucoup d'impatience, il y a beaucoup de supporters aussi, quelques centaines de supporters qui sont assemblés. Et ça n'est pourtant, François, qu'une prolongation de contrat.
Eh oui, l'info du jour, c'était donc que l'attaquant du club parisien restait à Paris. Néanmoins, à 15h30, exception faite de LCI qui s'intéressait à la situation en Ukraine, toutes les autres chaînes d'information en continu avaient choisi de retransmettre en direct la conférence de presse de Kylian Mbappé.
Conférence de presse devant des journalistes du monde entier, c'est une démonstration de puissance pour le PSG.
Un rendez-vous de la plus haute importance dans lequel Mbappé a livré une information incroyable.
Je reste quand même un joueur de foot et j'irai pas au-delà de cette fonction.
Un rendez-vous que la présentatrice de BFM TV a tout de même eu la grande honnêteté de résumer comme ceci.
Si on est honnête, on n'a pas appris grand-chose.
Tu m'étonnes. Breaking news, il ne s'est rien passé, vous disais-je. Pour autant, ça n'a pas empêché TF1 d'inviter à 20h, qui ça ?
Bonsoir Kylian Mbappé.
Bonsoir, merci de me recevoir.
Mbappé, encore lui, auquel Gilles Boulot a posé une question absolument remarquable qui traduisait parfaitement bien le caractère totalement non événementiel de son actualité.
Vous avez compris la folie qui s'est emparée de votre finalement non-transfert au Real Madrid.
Voilà le non-transfert délicieux synonyme de non-événement. Résumons-nous, Mbappé était donc en conférence de presse sur les chaînes info aux 20h de TF1, mais il s'est également invité à un endroit où là, franchement, on ne l'attendait pas. Au tout premier point presse de la nouvelle porte-parole du gouvernement, Olivia Grégoire, qui a été questionnée par un journaliste de l'émission C'est à vous.
Il y a plusieurs semaines maintenant, le président de la République avait exprimé sa volonté de voir Kylian Mbappé prolongé au Paris Saint-Germain. Ah. Pouvez-vous nous dire quel a été réellement le rôle du président dans la décision du joueur du PSG ?
Voilà, alors je rappelle qu'hier, au chapitre politique, la journée était ultra dominée par la très embarrassante affaire d'Amien Abad. Voilà pourquoi Olivier Grégoire a réservé un accueil plus que chaleureux à cette question-là.
Je vous remercie de votre question. Est-ce que j'aime le foot ?
Eh ouais, une question qui lui a permis de sortir de la polémique et qu'elle a trouvée beaucoup plus intéressante que toutes celles qui lui avaient été préalablement posées au sujet des accusations de viol qui pèsent sur Damien Abad.
Mais c'est une très bonne question et en tout cas une très bonne nouvelle, si je puis me permettre.
Tu m'étonnes. Où l'on comprend, Philippe, que le foot est une magnifique occasion de faire diversion et de sortir un peu la tête de l'Ukraine et des élections. Hier donc, sur l'autel du changement d'ambiance médiatique et de l'immense popularité de Kylian Mbappé, c'est finalement un homme qui a triomphé, le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi, auquel les télévisions ont offert la possibilité de plastronner et de montrer qu'il était bien, bien plus riche que son homologue du Real Madrid.
Kylian est resté à Paris Saint-Germain trois saisons prochaines.
Car la seule chose que j'ai compris hier, c'est que Kylian Mbappé, qui souhaitait ardemment quitter le Paris Saint-Germain il y a un an, a finalement été retenu par l'immense puissance financière de son club, résumé par Nasser El Khelaifi dans cette délicieuse formule.
On a gagné pas mal. Mais encore, on veut gagner plus.
Et traduite sur Twitter par un facétieux internaute qui a résumé le message que le dirigeant parisien a finalement adressé hier à son concurrent espagnol en exhumant très opportunément une image de l'inimitable Thierry Roland, téléphone à la main, lorsqu'il disait
« Voilà,
L'élégance même. Reste à savoir, Philippe, si c'est bien là le rôle des médias et s'ils ont bien compris ce qu'ils nous montraient en s'intéressant d'aussi près à Kylian Mbappé.
Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain. Héloïse Goy, je me tourne vers vous. L'indispensable que vous allez nous présenter tout à l'heure sera aux alentours de 10h30.
Eh bien, je vous emmène au Mali avec Sentinelle. C'est le nom d'une série française qui nous raconte la réalité du terrain auprès de la force Barkhane. Vous savez, ces militaires qui ont été envoyés au Mali pour lutter contre le terrorisme.
On en parlait justement avec le porte-parole de l'armée. Olivier Benkemoun, même question.
Ouais. Moi, je ne vais pas parler de Kiki, roi de Paris.
mais de quelqu'un qui est capable de faire des films au même prix qu'un transfert de Mbappé, c'est Tom Cruise, et le film, c'est Top Gun Maverick.
On va en parler. Dans un instant, on sera avec Thierry Lhermitte pour nous parler du film Or au bord de la crise de nerfs. Mais d'abord, musique avec un nouveau titre extrait de la bande originale de ce film, justement Top Gun Maverick, c'est Lady Gaga.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne sais pas si c'est mieux, c'est encore mieux, c'est différent. En tout cas, bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Philippe Vandel.
Merci de retrouver votre sourire. Vous êtes au générique d'énormes succès du cinéma français. Le Dîner de con, Les Ripoux, Un Indien dans la ville, Quai d'Orsay. Encore, j'ai même pas parlé du Splendide, Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés 1, 2 et 3. Vous n'avez jamais cessé de tourner. Et votre actu, c'est Homme au bord de la crise de nerfs, film d'Audrey Dana, avec un casting impressionnant, François-Xavier de Maison, Ramzy Bedia, Laurence Tucker, Pascal Demolon, Mickaël Grigorio. Je reprends mon souffle pour dire qu'il y a aussi Max Bessette de Malgré-Lévé, une fille, Marina Hand, ça sort demain, mercredi. Il faut que vous racontiez l'histoire, on pourrait penser au pendant masculin si on a vu que le titre de Femme au bord de la crise de nerfs, mais rien à voir avec le fameux film d'Almodovar, raconté.
Eh bien, c'est sept mecs qui vont pas bien pour des raisons différentes et puis que les circonstances envoient dans un stage de développement personnel, on va dire. Sauf qu'ils ne sont pas tous au courant que c'est un stage de développement personnel.
Moi, un stage de bien-être.
Oui, de bien-être. Moi, je crois que je vais en spa. Hein, voilà, et je me retrouve dans Koh-Lanta. Donc, c'est un peu différent. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est sept mecs qui vont pas bien pour tous pour des raisons différentes.
Voilà. Et qui ne se connaissaient pas précédemment.
Absolument.
Certains ont voulu y aller, certains n'ont pas voulu y aller. On va entendre la bande-annonce et on en parle.
Bonjour, messieurs. Oui. Allons-y.
J'espère que c'est pas une secte.
Si vous êtes là, c'est parce que vous allez mal. Mais surtout, c'est parce que vous avez envie d'aller mieux. Voilà, c'est ici.
Terre happy. J'ai le mot de merde.
Enfin, y a rien là.
Laissez résonner le mot rien.
Il n'y a même pas de réseau.
Quoi,
je vous assure que le monde peut fonctionner sans vous. C'est seulement 4 jours.
On va positiver.
Il y a plus de cigarettes.
On est bien, là.
Oh, putain. Oh, je me suis coupé. Putain. Non, ça va. Ah, si, putain, si.
Bah, allez.
Quel con, mais qu'est-ce que je fous là?
Ta gueule.
Vous êtes magnifique.
Allez, allez. Je me casse.
Faut pas le laisser partir tout seul, là. Il va se perdre, hein. Il est vieux, hein.
Ne vous inquiétez pas, il va revenir dans exactement 5 secondes.
Y'a un loup ! Putain, j'ai vu un loup ! Y'a un loup derrière ! Y'a un loup ! Putain !
Vous avez vu les loups pour de vrai ou pas du tout ?
On les a entendus, parce qu'on était dans le Vercors, ouais. C'est vraiment le pays des loups, c'est là qu'il y a le plus de meutes en France. Et en tournant de nuit, tout d'un coup, eh ben c'était les loups !
Et vous avez eu peur ?
Non, mais vous c'était chouette, c'était magnifique.
Vous aviez des chiens, vous avez quoi avec vous ?
Non, mais il n'y a qu'une raison qu'ils viennent nous voir, mais c'était magnifique, vraiment. C'était
chouette. Je parle de la peur à dessein, vous allez comprendre pourquoi. Alors que tous ces gars habitent ensemble dans une grande tente, sans eau courante, sans électricité, sans toilette, sauf Omega, joué par Marina Hans, que son mec vient chercher tous les soirs en 4x4 pour la ramener à l'aube. Qui est Hippolyte, votre personnage ?
C'est un mec qui est veuf, qui est en dépression, qui a laissé tomber, quoi, qui ne voit pas trop l'intérêt de continuer à vivre. Il ne s'occupe même pas de ses petits-enfants, il n'en a rien à foutre.
Il ne se lave même pas, il ne sort pas de son canapé.
Il ne se lave plus, ouais. Et donc sa fille lui dit, il faut que tu ailles là-bas. Voilà, je lui dis, il croit que c'est un spa, donc il a une drôle de tête quand ça arrive.
Il est un peu bougon. Comment vous l'avez pensé ? Comment vous l'avez construit ? Vous avez pensé à des gens que vous connaissiez ?
Oh, j'aurais pu penser à moi un petit peu, éventuellement. Ouais.
Ah, d'abord, vous n'êtes pas veuf ? Vous n'êtes pas dépressif ?
Bah, ça peut m'arriver, mais moi, si je laisse tomber, ouais, aussi je pourrais être comme ça, ouais. Parce qu'en plus, j'ai des doutes sur tout. Quand on s'en fout et qu'on ne veut pas parler aux gens, bah, on s'en fout, on regarde tout avec détachement, etc. Donc, c'est évidemment pas moi, mais ça pourrait être des parties de moi, ouais.
Ce n'est pas votre cas, parce que vous n'arrêtez pas de tourner, non. Vous n'arrêtez pas de travailler. Vous pourriez dire non au projet qu'on vous propose.
Oui, mais j'ai un peu de détachement quand même. Hein.
Alors, c'est un stage de bien-être, mais qui ressemble beaucoup, beaucoup à un stage de survie. Vous étiez en pleine nature dans le Vercors. Comment s'est passé le tournage ? Donc déjà, de nuit, on peut entendre les loups, ce que j'ignorais.
Et on était à côté de la chapelle en Vercors, dans une vallée absolument sublime, où on arrive par une seule route. Donc, il n'y a pas trop de passages. Et pas de téléphone, donc zone blanche. Et c'était super chouette. Et comme le film a été tourné dans l'ordre du scénario et qu'on on ne se connaissait presque pas les uns les autres, donc on s'est découvert comme en colo, quoi.
Voilà. Vous avez eu le temps de vous connaître. Il y a une scène extraordinaire qui fait penser à Furio, le film avec Bowie. Elle creuse des trous, ça fait partie du développement personnel. Elle creuse 7 trous, elle met les 7 mecs dedans. Il y a juste la tête qui dépasse et elle vous laisse comme ça toute la journée.
Ouais.
Trucage, pas trucage ?
Ah non, pas de trucage.
Racontez,
on a fait 2 fois 4 heures. C'est une scène qui dure 4 minutes dans le film, mais qu'on a fait 8 heures enterrées dedans. C'est assez flippant.
Racontez.
C'est-à-dire que.
Là, on a peur pour vous, parce qu'un moustique se pose.
Oui.
Un escargot,
il faut appeler quelqu'un pour se gratter le nez. On ne peut pas sortir comme ça. Il y a une vache qui est devenue folle, qui était autour, donc on avait peur qu'elle nous piétine. T'as les techniciens qui passent à côté avec tous les trucs lourds, on a peur qu'ils nous marchent sur la tête. C'est très, très déplaisant. Moi, je me suis marré. Moi, je n'aimais pas ça, mais ce n'était pas la panique. Mais il y en a certains qui étaient vraiment claustro. Et ce qui est drôle, c'est Laurent Stocker, qui est vraiment claustro. Lui, il détestait ça. Il devait faire le mec qui trouve ça assez cool, qui trouve ça sympa. Il devait jouer ça. Et moi, ça me faisait marrer de voir souffrir.
On va raconter comment Audrey Dana a composé son film. Mais d'abord, c'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Thierry Lhermitte reste avec nous. Culture Média continue, évidemment.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'acteur Thierry Lhermitte. On parle de ce film « Homme au bord de la crise de nerfs ». On va mieux vous connaître, Thierry, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant la célébrité. Bonjour Lisa Marie.
Bonjour Philippe, bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour.
Vous êtes un comédien à succès qui a fait rire la France entière. Vous avez joué dans plus de 150 films, téléfilms, au théâtre également. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Thierry Lhermitte, vous êtes né à Boulogne-Billancourt et vous avez grandi à Neuilly-sur-Seine. Et comme beaucoup d'enfants, vous rêvez de devenir explorateur, pompier ou vétérinaire, mais pas du tout comédien.
C'est exact. Ah oui, je m'arrête là. C'est exact.
C'est voilà, exact.
Alors on continue. Et,
et voilà, ça s'arrête là.
Bonne journée Thierry Lhermitte. Merci Lisa Marie.
La matière que vous aimez à l'école et dans laquelle vous vous défendez plutôt bien, c'est les mathématiques. Mais vous n'aimez ni les sciences ni la chimie. Pourtant, vous avez de qui tenir pour l'esprit scientifique. La famille Lhermitte compte 2 grands médecins. Votre oncle, François Lhermitte, neurologue et chercheur. Et votre grand-père, Jean Lhermitte, neuropsychiatre. Son nom est d'ailleurs associé à ce qu'on appelle le signe de Lhermitte en médecine, c'est bien ça ?
Oui, c'est exact.
C'est
vous voulez que je développe ?
C'est
une espèce de sensation de décharge électrique quand on baisse la tête et c'est associé à la sclérose en plaques. Voilà. Parce que c'était un peu sa spécialité. Ouais.
Thierry Lhermitte, à partir du collège, vous êtes élève au lycée Pasteur à Neuilly, une école de garçons. Vous rencontrez Gérard Jugnot, Christian Clavier et Michel Blanc. Et vous partagez ce goût commun du spectacle. Vous êtes membre du club de théâtre. Vos références, vos idoles sont alors Poiré et Serrault. Et aussi ce film comique. C'est la musique du film The Party
C'est absolument un chef-d'œuvre absolu, la partie. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Blake Edwards, en plus, qui me raconte qu'en fait, il a fait ce film dont personne ne voulait, en attendant des réponses pour un autre gros film après, et qu'ils ont fait, je crois, genre 4 semaines ou 5 semaines. Le scénario était écrit un peu tous les jours. Ça se voit à la fin, tu n'as pas très bien debout.
Oui.
Mais c'est une merveille de jeu d'acteur. Quoi. Voilà, c'était vraiment,
de drôlerie et de burlesque, c'est incroyable. Dites en deux mots de quoi il s'agit. C'est un type qui va à une fête.
C'est un type
qui
n'est pas invité, qui est hindou. Il joue un mec qui vient des Indes et qui est figurant et dont le nom se trouve par erreur sur la liste des invités, alors que le mec l'avait écrit pour le dire qu'on ne voulait plus jamais le voir au cinéma, ni even on television, sir. Oui, oui, même à la télévision.
C'est joué par l'acteur britannique Peter Sellers.
Peter Sellers, qui est un immense acteur.
Et vous tournez vous-même un premier film en 16 mm, un scénario que vous avez imaginé sous le nom de Désespoir de cathode, et vous demandez à votre entourage de vous aider à le financer, de la cour de récré à votre grand-mère, je crois.
Oui, c'est vrai. C'est un film symbolique, un mélange de Buñuel et de Crétin complet. Voilà.
Au lycée, vous vous destinez à devenir prof de mathématiques ou mathématicien. Vous passez un bac C, puis vous vous inscrivez à la fac. Mais vous prenez en même temps avec vos camarades des cours de comédie auprès de Sheila Shelton. Des cours que vous suivez plus assidûment que ceux de la fac. Le théâtre vous happe. Vous vous lancez alors tous ensemble dans un grand projet, monter un café-théâtre. Votre rêve, c'est de faire comme le café de la gare. Alors ça commence en bleu de travail pour construire ce rêve. Le splendide né à la force de vos bras et de vos blagues. Et à cette même époque, vous allez, je crois, habiter un an chez Coluche, rue Gazan.
Ah oui ?
Oui, oui, c'est exact, entre deux appartements, mais c'est au moment où on avait déjà construit le premier, où on était en train de le construire, je ne me souviens plus très bien. Effectivement, je changeais d'appartement et Coluche me dit, il venait de s'installer rue Gazan, il y avait un studio dans l'immense maison, et donc j'habitais un an là-bas, et je jouais au café-théâtre, et on a joué aussi Ginette Lacaze avec Coluche, avec tous les copains.
Thierry Lhermitte, avec votre joyeuse bande, vous écrivez et jouez des spectacles, ce qui vous fait marrer avec cet humour dévastateur qui égratigne en douceur la société française. Et en 78, dans un tout autre registre, vous faites aussi une publicité pour les PTT avec Christian Clavier. Mmh. Vous jouez un représentant des télécoms.
Et l'acrobate ? Faut toute la route là pour manœuvrer ton yo-yo ?
Eh oh, doucement, Armand ! Fallait rester derrière un guichet si t'es pas capable de piloter ta caisse.
Oui, alors figure-toi que du courrier, il y en a de plus en plus. C'est avec des caisses comme ça qu'on tient les délais.
Qu'est-ce que tu crois qu'on fait au télécom ? Du tricot ? En 5 ans, on a doublé les abonnements. Et je te parle pas des satellites.
Et j'espère qu'ils vont pas tomber en panne, tes satellites, hein ? Non, parce qu'il te faudrait une sacrée rallonge. Et toc !
Et en tout cas, toi, si tu tombes en panne, tu peux toujours reprendre ton vélo ? Et blanc ?
Oui, alors en attendant, tu dégages ta girafe parce qu'il faut que j'y aille, hein ? Merci, tu me fais plaisir.
Et vous obtenez le prix d'interprétation du meilleur film publicitaire.
Ah oui, puis c'est mérité, on a entendu quand même. Ça, c'est...
Vous voulez que je vous dise, franchement, c'est mieux que 99% des pubs de maintenant.
Mais c'est très bon. c'est
excellent. Mais vous étiez connu ou pas connu ? C'est non, vous étiez anonyme ou vous étiez un peu connu ?
Non, on n'est pas connu du tout. Peut-être un tout... Non, on n'était pas connu du tout. Non.
Thierry Lhermitte, vous continuez de jouer, d'improviser et d'écrire collectivement avec la troupe du Splendide. Les spectacles s'enchaînent, mais celui qui va tout changer, c'est Amour, coquillage et crustacés, adapté sur grand écran sous le titre Les Bronzés. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci beaucoup Lisa-Marie Marquez. Je rebondis juste sur une info que je ne connaissais pas. Je savais que vous étiez évidemment au lycée, clavier et la bande, mais c'était des classes non mixtes.
C'est devenu mixte en 69.
Mais quand vous y étiez vous-même ?
Ah bah au début, moi j'étais avant, je devais être en troisième en 68.
Il n'y avait que des mecs.
Et il n'y avait que des mecs, et l'année suivante, on a eu la chance d'avoir des filles.
D'accord, on imagine bien la classe de seconde avec Thierry Lhermitte. Merci beaucoup Lisa-Marie Marquez, Culture Média continue, à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Homme au bord de la crise de nerfs, c'est le nouveau film dans lequel on peut trouver Thierry Lhermitte. Il n'est pas seul, c'est un film choral. Il y a deux maisons, Ramzi Bedia, Laurent Stocker, Pascal Demolon, Michael Gregorio et une seule fille, Marina Hand, c'est assez notable pour être signalé. C'est un film signé Audrey Dana. Il y a presque un film dans le film, parce qu'il faut raconter comment s'est passé le tournage techniquement. C'était un tournage éco-responsable.
Éco-responsable, c'est-à-dire qu'Audrey Dana, elle a raison, hein, j'ai tout à fait raison même, elle voulait limiter le plus possible l'impact carbone d'un tournage qui, évidemment, en consomme beaucoup.
Voilà. Là, vous étiez dans un coin perdu, splendide du Vercors.
Absolument, et puis souvent, vous savez, on est très gâté dans le cinéma, donc on a une voiture par personne qui vient nous chercher. Là, on était en minivan, on y allait tous ensemble.
Comme dans Scooby-Doo.
Il y avait des toilettes sèches, et à la cantine, effectivement, au lieu de jeter énormément, parce qu'il y a le choix pour tout le monde, on vous demandait ce que vous vouliez bouffer avant. Et en plus, la caméra était en papier recyclé.
Attendez. Moi, je me laisse avoir, mais que je suis bête. Hein.
Donc elle a essayé, elle est là à la cantine. Vous savez, il y a toujours un petit buffet, ça s'appelle la table régie, ça s'appelle. Bon, d'habitude, il y a des Mars et des Twix, là, il y avait des graines. Voilà, et de l'eau avec des rondelles de concombre dedans. Et il y en a qui n'aimaient pas ça du tout.
Ouais.
Voilà, moi je m'en fous complètement, mais il y en avait vraiment
non.
qui...
Ah non, mais non, je vais dire, non, je vais dire. Ramzi Bedia, il a fait un trafic de coca.
Ah ouais.
En douce.
Ah lui, il fallait du sucre, absolument, lui. Voilà.
Et il fallait vraiment, vous êtes douché à l'eau froide, comment ça s'est passé ? C'était
rustique ? Non, on était à l'hôtel le soir, pour pas exagérer, mais sur le tournage, c'était sérieux. Voilà.
Audrey Dana dit que vous lui avez dit que ce fut toutefois le film le plus physique que vous ayez eu à tourner durant toute votre carrière, Thierry Lhermitte.
Sans déconner, on était... le premier jour, on a marché sous la pluie pendant, je ne sais pas, peut-être 10 bornes, un truc comme ça, parce que c'était la situation.
Ouais.
On a sauté dans la cascade dans une eau absolument glaciale, on était dans la yourte où il faisait 60 degrés, on était dans le truc de chaleur, la hutte de sudation.
Ouais.
On a été enterrés toute la journée. Ça avait quelques épreuves.
Mon Dieu. Et tout ceci, on le retrouve dans le film. Parce que quand vous êtes enterrés, on a mal pour vous.
Ben oui, surtout, ça dure 8 heures, quoi. C'était 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Donc,
pas de trucage.
Non, pas de, ben, pas de trucage, non, on était enterrés.
Ouais. Vous allez comprendre pourquoi je pose la question, lien tout trouvé avec ce dont vous allez nous parler. On parle de cinéma également, un autre genre de cinéma, c'est presque une marque. C'est Top Gun Maverick, Olivier Benkemoun, c'est votre indispensable.
Absolument, je pense que c'est le film qui a le pire bilan carbone du monde. Je crois qu'on y est. Alors, extraordinaire, hein, je vais pas faire dans la nuance ou jouer les pisse froids, hein, c'est dingue. C'est une dinguerie, c'est fou.
Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord.
Le combat commence.
Ce qui est fou d'abord, c'est que dès le générique, Thierry Lhermitte, vous devenez sourd. On est, écoutez bien, sur le porte-avions. Juste le bruit des réacteurs, vous êtes avec les gars qui préparent les avions, les pilotes qui s'installent. Vous prenez déjà des jets de pression dans votre siège de cinéma. Je continue dans la nuance.
Oui, nuance. D'abord.
Ce qui est extraordinaire ensuite, c'est la manière dont la technologie aujourd'hui permet de filmer des scènes embarquées dans un cockpit. Parce que c'est quoi la promesse de Top Gun ? Il y a d'abord le côté Madeleine des années 80, évidemment. La petite musique du premier volet, il y a 36 ans. Le sourire de Tom Cruise, avec lequel vous rivalisiez, Thierry Lhermitte. Le blouson, la moto japonaise, la course avec l'avion de chasse. Le petit bar où les pilotes se chamaillaient, la serveuse de l'Evoque, enfin tout ça, ça y est. Mais l'autre promesse, c'est d'être embarqué dans des avions de chasse US comme seul Hollywood peut le faire, et pas avec des écrans verts et des effets spéciaux. Pour répondre à votre question, Philippe, alors, comment ont-ils fait ça? C'est les mystères de la vie. C'est plutôt que Tom Cruise est un fou, c'est un dingue. Je rappelle que c'est lui le producteur du film. Il dit quoi à ses acteurs ? On veut que ça paraisse vrai, donc qu'il sache piloter un F-18, tout simplement. Il n'y a pas de discussion, et vous avez trois
c'est
bras.
C'est vrai, c'est authentique.
Ah oui ?
Ouais.
Sérieux ? C'est que l'échauffement.
Il a donc créé ce qu'on appelle, ce qu'il appelle lui, l'école Top Gun pour ses acteurs. Entraînement dans un monomoteur, puis voltige aérienne avant d'embarquer dans un avion de chasse où toutes leurs sensations et leurs déformations, c'est important, seront filmées.
C'est violent, vous ne pouvez pas jouer ça. La déformation du visage. On atteint 7,5 ou 8G. 725 kg de pression. Je suis très fier d'eux. Ils ont assuré.
Moi aussi, je suis très fier d'eux. Et en plus, ils n'ont pas fait que piloter. Là-haut, il leur a fallu réaliser. Il y avait 6 caméras dans le cockpit et chaque acteur devait ajuster le cadre. C'est là aussi, il s'éclate. Sinon, il y a un tout nouveau casting de jeunes pilotes. La mission qu'ils doivent réaliser, parce qu'il y a une mission dans le film, c'est carrément du suicide. Et le film raconte tout leur entraînement pour y arriver. Une apparition hyper émouvante, celle de Val Kilmer, qui est par ailleurs malade. C'est un joli coup de chapeau. Cela dit, quand même, on a des aveux à vous faire écouter. Des aveux de Tom Cruise à une télé américaine. Oui, même Tom Cruise vomit.
Nous faisons 3 vols par jour et il n'y a rien que tu puisses faire. Obligé, tu vomis.
Tom Cruise alias Maverick dans un film qui raconte le dépassement de soi-même, la transmission, le patriotisme aussi, sans la subordination. Ok pour des ordres, mais on va pas être quand même à la botte de militaire idiot. Peut-être le film qui fera revenir les plus de 45 ans au cinéma, parce que c'est aussi ça l'enjeu.
La fin est inéluctable, Maverick. Vous êtes d'une espèce en voie d'extinction.
C'est possible, mais pas aujourd'hui.
Oui. Pas aujourd'hui, Philippe Vandel. Pas aujourd'hui.
Je vais réfléchir. Ouais. Je vais poser la question à Thierry Lhermitte, comme ça je vais m'en sortir.
Je crois que je vais répondre comme ça aussi. Ouais. Je t'écoute, Philippe.
Ouais, tu vas y aller voir ce film.
J'en suis pas sûr.
Ouais, tu t'es pris 6G, ça te fait quelque chose. Hein.
6G, ça doit vraiment. Il n'y a que des mecs qui vraiment peuvent encaisser ça.
Ouais, tu verras ce que ça va faire. On va te foutre au mieux des vers de terre. Dans le Vercors, ça va être autre chose. Merci Olivier Benkemoun. On va parler d'une série qui arrive. On est avec Thierry Lhermitte. Culture Média continue. Et puis le jeu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Koh-Lanta dans le Vercors, c'est Homme au bord de la crise de nerfs. Ça, c'est le vrai titre. C'est film signé Audrey Dana avec Thierry Lhermitte. Il y a aussi Laurence Tucker, Pascal Demolon, Michael Gregorio, Marina Hans, Ramzi Bédia. Comment s'est passé le tournage techniquement ? On parlait de mise en scène tout à l'heure. Il paraît qu'une grosse place a été donnée à l'improvisation. Ce que je sais, c'est qu'Audrey Dana disait moteur, comme on dit toujours, mais elle disait jamais coupé.
Oui, elle nous laissait continuer. En fait, comme c'est très bien écrit, tout le monde était dans ses personnages et on savait qu'est-ce qu'il y avait avant la scène, ce qui était avant la scène qui était écrite, et on pouvait la continuer. Et Audrey se régalait de ça. Et comme elle est actrice aussi et qu'elle voit bien que on est dans la situation, on est dans les personnages, et il y a effectivement du coup beaucoup de dialogues improvisés qui sont dans le film. Ouais.
Elle dit de vous, elle dit de son film. Audrey Dana, c'était une co-création. Certains, comme Thierry Lhermitte, avaient des idées pour les autres. Quel genre d'idée vous avez eu ?
Je me souviens plus, mais en plus, elle ne nous disait pas toujours ce qu'il allait se passer. Il y a une scène où la coach Marina Hans arrive dans une espèce de tenue de chaman.
Avec le tambour ?
Avec le tambour, oui. Ouais. Mais on ne savait pas. On savait pas. Elle nous met comme ça autour du feu la nuit avec les loups là, qui hurlent, et puis pour de vrai. Et puis tout d'un coup, on entend les tambours, on ne sait pas ce que c'est. Et donc arrive Belphégor, quoi. Ouais. C'est en gros. Là. Donc moi, Belphégor.
D'accord. Voilà. C'est dans le film.
Oui, c'est dans le film,
mais ce n'était pas dans le scénario. Non,
c'était dans le scénario, mais on ne nous avait pas dit qu'il y avait ça à ce moment-là.
J'ai mal dit ma phrase, c'était pas une ligne de dialogue.
Non, c'était...
C'est une invention de Thierry Lhermitte.
Ouais.
Et ça fonctionne. Elle est très très bien en Belphégor.
Elle est fantastique.
Donc elle chante comme ça, des chants comme ça.
Des chamans sibériens. Ouais. Voilà.
Ouais. On a l'impression qu'elle y croit.
Mais elle foutait les jetons au bout d'un moment. Ouais. Mais sans déconner. J'avais peur qu'elle nous égorge, ma maman, parce que...
C'est Héloïse Goua qu'on entend rire et sourire. Rebonjour Héloïse, à l'occasion de cette journée spéciale Top Gun. Vous nous parlez d'une série qui concerne cette fois l'armée française, donc ça n'a rien à voir. Ça s'appelle Sentinelle. Ça n'a rien à voir avec le film de l'ermite, évidemment.
Non, ça a à voir avec l'armée. C'est une série qui s'inspire d'une vraie mission de l'armée. Vous la connaissez forcément, cette mission. C'est l'opération Barkhane au Mali. Pour rappel, en 2014, le gouvernement de François Hollande envoie des militaires dans le pays. L'objectif, lutter contre le terrorisme et traquer les djihadistes. On va donc suivre dans cette série, Sentinelle, le 22e régiment d'infanterie dirigé par une femme, le lieutenant Anaïs Collet. Et on commence le premier épisode in medias res. Les militaires se retrouvent dans le désert malien sous les balles d'un tireur isolé. Et très vite, une dispute éclate entre le chef de groupe qui refuse d'ouvrir le feu et un soldat qui décide, lui, de ne pas obéir aux ordres.
Il est en haut du bâtiment à l'extrême gauche. La prochaine fois qu'il tire, je l'aligne.
Non, t'alignes rien du tout. S'il se pointe, tu fais un warning shot.
Il est à 450 mètres, Martial. Il se pointe que une à deux secondes. Si je fais un warning, on l'aura jamais.
Putain, Ravalet, je crois vraiment que c'est le moment de discuter les ordres de ton chef de groupe, là.
Mais il ne donne pas d'ordre, là, à part attendre.
Je suis ton supérieur, Ravalet. Si tu tires, c'est le tribunal.
Ce tir, là, que vous venez d'entendre, eh bien, il va être le point de départ de l'intrigue de la série, parce que cette balle va tuer non pas le tireur qui menaçait la sécurité des soldats, mais un jeune adolescent qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et cette bavure va bien sûr tendre les relations entre les militaires français et la population malienne. Et c'est globalement ce que nous raconte cette série, cette hostilité croissante des locaux envers les militaires qui peinent à trouver leur place dans ce pays qu'ils sont censés défendre.
Alors évidemment, c'est pas la première série de guerre de ces dernières années. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci ?
Alors, c'est pas la première série de guerre, évidemment, mais c'est la première fois que la guerre au Mali est abordée dans une fiction. On doit cette série au producteur et scénariste de la série Un village français.
Ah oui.
Je sais pas si vous l'aviez vu, Thierry Lhermitte, vous avez cette série à succès sur la France occupée par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs choses intéressantes dans cette série spécifique. Déjà, les images sont presque tournées comme un documentaire. On nous emmène au plus près de la réalité du terrain. C'est une réalisation immersive et ça fonctionne bien. Je peux vous garantir que certains épisodes vous feront battre le cœur très vite tant on a l'impression d'y être. Et ensuite, dans les choses qui m'ont plu, c'est que la série interroge en profondeur la question de l'engagement militaire. Qu'est-ce qui motive ces jeunes à porter l'uniforme ? Et dans ce cas de figure, eh bien la question se pose tout particulièrement parce que le plus souvent, les militaires n'ont pas l'impression de servir à grand-chose dans ce pays qui ne veut pas tellement d'eux.
Si on n'est pas capable d'aider un gendarme honnête à arrêter des criminels, qu'est-ce qu'on fout ici ?
Représentons la France, Collet, pas le Mali.
Alors qu'est-ce qu'on fout au Mali ? Si on n'est pas ici pour aider les Maliens à faire régner le droit et la justice, qu'est-ce qu'on fout au Mali ?
On obéit aux ordres de la République, qui souvent sait pas ce qu'elle veut.
En fait, et ça c'est la réalité, cette opération Barkhane est compliquée pour les soldats parce qu'officiellement, ils sont censés traquer les terroristes, je vous l'ai dit, et protéger la population. Mais en même temps, ils ne doivent surtout pas marcher sur les plates-bandes des soldats maliens au risque de tendre les relations diplomatiques entre les deux pays. Et toute cette ambiguïté est très bien montrée dans cette série. Elle nous pousse à réfléchir à la question du post-colonialisme, question encore au cœur de l'actualité, hein, puisque ce n'est qu'en février dernier que l'opération Barkhane a mis les voiles, justement parce que les tensions diplomatiques devenaient électriques avec la junte malienne actuellement au pouvoir.
Donc la série s'appelle Sentinelle, c'est au pluriel. Où est-ce qu'on peut la voir cette série ?
C'est sur OCS et en tout c'est 7 épisodes d'environ 50 minutes, tout est déjà disponible.
Vous êtes client de série Thierry Lhermitte et client de ce genre de série en particulier ?
Ça m'a donné envie de la voir celle-là, oui, absolument.
Vous regardez quoi sinon ?
Pour tous les classiques, hein. J'ai regardé, Game of Thrones, The Crown, 50 000 séries. Ouais.
50 000 séries, Thierry Lhermitte, merci. Culture Média continue, c'est la dernière ligne droite et on a un concours dont on voudrait vous parler. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Thierry Lhermitte, Homme au bord de la crise de nerfs. C'est un film signé Audrey Dana qui sort demain. C'est pas parti de nulle part l'intuition qu'elle avait, Audrey Dana. Elle vous a raconté comment elle a conçu ce scénario avec Claire Barré.
Oui, elle pour savoir voilà, les préoccupations, c'était quoi les problèmes des hommes dont elle voulait parler. Elle voulait être sûre de ne pas dire n'importe quoi. Elle a envoyé un questionnaire assez intime et assez fouillé d'une quarantaine de questions à 150 mecs qui ont accepté d'y répondre. Et donc, elle a tiré les problèmes, ce qui lui a semblé les problèmes principaux des mecs. Et le truc qui est remarquable, c'est que dans les dernières questions, elle a demandé qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise des hommes dans un film qui parlerait des hommes. Et pratiquement 90% des gens, des hommes, ont répondu qu'on est fragile. Voilà.
Et qu'on a peur.
Ouais, c'est marrant, hein.
C'est pour ça que vous avez peur de sauter dans la cascade.
C'est horrible, oui.
C'est horrible. Vous-même, vous avez peur ou pas?
Ouais. Ah bah oui, bien sûr. Ouais.
De quoi vous avez peur?
De quoi j'ai peur? De sauter dans le vide. Très, très peur.
Oui, mais c'est normal d'avoir peur de ça, parce que personne n'a besoin, n'a vocation à sauter dans le vide.
Bah oui, mais ça fait partie de mes peurs. Voilà.
Alors j'ai mal posé ma question. Ma question était, est-ce que vous avez des peurs irraisonnées?
C'est quand on vous
comme
dit que c'est sans dangereux.
Comme les Gaulois qui avaient peur que le ciel
tombe
sur la tête.
Aller dans un endroit qu'on ne connaît pas, alors qu'on vous assure que c'est sans risque, c'est irraisonné. La raison devrait me dire, les gens en qui j'ai confiance me disent qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais j'ai peur quand même.
Vous avez peur quand vous montez seul sur scène?
Ouais, ça peut m'arriver, mais moins pour Fleur de Soleil, que je vais jouer. Je suis sorti de cette problématique-là. Je me suis dit un jour, en fait, je ne suis pas acteur, là, je fais une mission. Je vais parler aux gens de quelque chose qui me préoccupe et qui est susceptible de les préoccuper.
Il faut raconter ce que c'est. C'est un spectacle que j'ai vu. Vous étiez venu nous en parler il y a 2 ans. C'est un seul en scène, Fleur de Soleil, écrit par Simon Wiesenthal, qui est connu comme chasseur de nazis, que vous allez reprendre à Avignon. Raconter l'histoire, parce que c'est pas commun du tout, c'est même à front renversé ce qui se passe dans ce spectacle.
Simon Wiesenthal, déporté, se trouve un jour dans la chambre d'un nazi mourant. On l'envoie dans la chambre d'un nazi mourant, un jeune SS, qui lui raconte les horreurs qu'il a commises pendant la Shoah par balle et qui lui demande son pardon. Et il se demande s'il aurait dû, s'il n'aurait pas dû. Ça l'a obsédé toute sa vie. Et il a envoyé son bouquin à la fin de la guerre, enfin pas la guerre, pas avoir écrit, à des dizaines d'autorités morales, du Dalai Lama au pape, à des scientifiques, à des philosophes, à des prêtres, à des rabbins, pour leur demander qu'est-ce que vous auriez fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Mmh. Et c'est le problème à qui on pardonne, comment on pardonne, dans quelles circonstances, est-ce qu'il faut pardonner ou pas, voilà.
D'où la mission. Qu'est-ce que vous avez tourné qui va arriver? Parce qu'il y a un embouteillage de films, il y a plein de choses qui ont été tournées, j'imagine.
Oui, plein de choses qui ont été tournées. Avec le Covid, elles ne sont pas sorties. Homme au bord de la crise de nerfs demain. Et puis, Joyeuse Retraite 2.
De Michel Larocque?
Avec Michel Larocque. Oui,
d'accord,
oui, absolument.
Mais c'est pas le qui l'a fait.
Fabrice Braque. Mmh. Et puis, et un autre film avec Patrick Timsit qui sortira probablement en début d'année prochaine, qui s'appelle À nos âges.
Je suis obligé de vous demander ça, Les Bronzés 4. Bon, le comte a dit qu'il avait une idée.
Non, un autre film avec tout le monde, tous ensemble, j'espère, ça serait vraiment un grand bonheur. Mmh. Mais bon, pas Bronzés 4. Non.
10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les matins, il y a des stars qui viennent spécialement pour nos invités. Et aujourd'hui, Thierry Lhermitte, il y a Michel Simès qui est dans le studio. Bonjour docteur.
Bonjour docteur Philippe, bonjour docteur Thierry, et bonjour à l'infirmière Mélanie en blouse blanche. On n'est pas là pour parler de mes fantasmes. Alors Thierry, vous avez récemment confié avoir connu le burn-out. Mon conseil en tant que médecin, travaillez très peu. La preuve, Philippe Vandel se porte à merveille. Alors évidemment, on ne va pas se quitter sans une petite devinette. Est-ce que vous connaissez la différence entre un burn-out et un suicide?
Non.
Environ 6 étages.
Jean-Claude Van Damme a tenu à passer vous voir, Thierry.
Ok, bonjour, au revoir. Good McMorning, ça veut dire bonjour en diabétique. Entraînement. Thierry, j'ai appris que t'es passionné de karaté et d'équitation, ok? Du coup, je te propose d'allier tes deux passions et de monter sur mon dos, ok? T'as vu comme je suis aware? Wow, c'est incroyable, il y a un panda qui conduit une Fiat. Qu'est-ce que je disais? La drogue, c'est mal. Grand écart des coudes.
Nicolas Sarkozy.
Ah, on m'a dit de placer Top Gun dans la chronique. Du coup, Top Gun, voilà, c'est tout.
Nicolas Sarkozy vient d'entrer dans ce studio.
Oui, bonjour. C'est pour dire à M. Lhermitte que quand j'ai vu le titre de son film, Homme au bord de la crise de nerfs, j'ai cru que c'était le biopic des Républicains. Non, on rit, mais en ce moment, je connais une femme au bord de la crise de nerfs, ma valoche. Encore 5 millions à rembourser, enfin, 5 millions plus 324 euros. C'est le tarif de son coach en communication. On avait pris le moins cher du marché. Comment ça s'est vu? C'est pas gentil de dire ça. Salut, c'est Raymond. Raymond Domenech. Thierry Lhermitte, vous êtes en couple depuis 40 ans avec la même femme. Bravo, c'est du solide. Mon dernier rendez-vous a duré 40 minutes. Et encore, elle est restée 39 minutes aux toilettes. J'aurais pas dû cuisiner cette pizza butoni. Bon, du coup, je peux vous donner quelques conseils si vous voulez vous faire larguer. Tenez, un soir, Estelle m'a gentiment invité au restaurant avec ses copines. Elles m'ont toutes dit leur film préféré, c'est Le Dîner de cons. Elles ont ri. Et le soir même, Estelle avait changé de serrure l'appartement. Thierry, veux-tu m'épouser? Bonne journée.
Vous avez le droit de dire non, Thierry Lhermitte. Merci Marc-Antoine Lebret, à demain. Merci Thierry Lhermitte d'avoir été avec nous. C'est Homme au bord de la crise de nerfs. Ça sort demain. Film signé Audrey Dana. J'ajoute qu'Europe 1, il fallait placer Top Gun. Mais moi aussi, je vais en parler. Je vous propose de gagner des packs collector Top Gun Maverick composés d'un blouson, un sac, un t-shirt, une casquette, un écusson autocollant, l'album de la BO et deux places de cinéma.
Et un pin's de Raymond Domenech.
Pour participer au jeu, il suffit d'aller sur Club Europe 1, Club E1.europe1.fr. J'espère l'avoir bien dit. Vous allez sur le site, vous allez retrouver tout ça. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Marine Turki, c'est la journaliste de Mediapart qui enquête sur les affaires d'agression sexuelle. Dernière en date concerne le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad. On lui demandera comment elle travaille. On parlera aussi de la chaîne musicale câblée Mezzo, qui cartonne le Netflix de la musique classique, pour reprendre l'expression du New York Times. On sera avec son patron Hervé Boissière et puis le chanteur Dave pour sa tournée et son nouvel album. Il s'appelle C'est pour vous Raymond, souviens-toi d'aimer. Juste après le flash.
Merci.
Mélanie Gomez, bien fait pour vous le programme.
Eh bien nous aussi, dans cette journée spéciale Top Gun Maverick, on a décidé de parler d'un sujet qui va vous intéresser, Philippe. Comment dépasser nos propres limites?
Ah bah oui.
Voilà, donc vous avez une petite idée peut-être, mais vous verrez, oui, qu'il n'est pas nécessaire d'être pilote de chasse pour y parvenir. Et puis dans la séquence tendance de Bien fait pour vous, on fera un point sur, vous savez, cette mode qui consiste à faire des cures de champignons adaptogènes. C'est très... Mais non, non, mais c'est sérieux.
Je souris,
c'est utilisé
pour
dans la médecine chinoise, notamment depuis des millénaires. On fera le point.
J'ignorais.
C'est à la mode en Occident aujourd'hui. Et puis on vous donnera aussi des idées de colos de vacances pour les petits, des colos originales. Voilà, coloscopie. Non, des colos top chef, des colos de magie. Enfin, je suis sûr qu'il y en a une qui vous plaira.
Merci Thierry Lhermitte pour ce dernier mot. Culture Média continue. Non, on revient demain à 9h. Salut.